Maryse Carrère, vous avez tenu ce matin une conférence de presse pour adresser les vœux à la population des Hautes-Pyrénées. Vos premiers vœux en tant que sénatrice et de présenter également à la presse, c'est une présentation qui était donc toute inédite pour vous.
Et oui, c'est la première fois et la première expérience en tant que sénatrice, puisque j'ai été élue le 24 septembre 2017.
Alors, vous avez fait le point sur les 4 mois depuis votre entrée au Sénat. Quels sont les éléments marquants? Où siégez-vous? Dans quelle commission? Voyons, dites-nous tout.
Alors, je suis arrivée donc au Palais du Luxembourg dès le 25 septembre au matin. Et là, j'ai rejoint le groupe RDSE, Rassemblement démocratique social européen. C'est le groupe où siègent les radicaux de gauche. Et c'est accessoirement le groupe le plus ancien du Sénat. C'est un groupe qui est composé de 21 sénateurs de toute la France entière. Hein, et c'est un groupe qui a la particularité de préserver la liberté de vote aux sénateurs qui le composent, même si on se retrouve souvent sur les mêmes valeurs et les mêmes votes, mais en tout cas on a une liberté de vote complète.
Vous avez eu l'occasion de voter contre la majorité sénatoriale ou vous êtes pour l'instant dans la même ligne?
Alors, ça dépend des dossiers. Alors, c'est vrai qu'au Sénat, on a l'habitude quand même d'avoir des élus parlementaires qui sont particulièrement attentifs à leur territoire. Donc, souvent, sur beaucoup de lois, on se retrouve parce qu'on préserve nos territoires et notamment les territoires ruraux. Par contre, je n'ai pas voté toutes les lois, non, telles qu'elles ont été revisitées par la majorité sénatoriale, mais j'en ai voté à peu près 50% qu'on a tous voté et 50% que je n'ai pas voté pour des raisons, parce que des amendements n'avaient pas été retenus, parce que n'étaient pas forcément favorables à mon territoire.
Est-ce que l'on sent que la majorité sénatoriale n'est pas tout à fait dans le même sens que la majorité de l'Assemblée nationale, ça on le sait, mais est-ce que ça se ressent à l'intérieur du Sénat, cette
Alors,
pesanteur?
pas du tout, ça se ressent pas du tout, parce que comme je vous le disais, avant tout, c'est des gens qui connaissent vraiment les configurations du territoire, de leur département, et avant tout, ils votent pas forcément avec une posture politique. Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent au Sénat. Il n'y a pas de posture politique, de politique politicienne. Donc, il y a des fois où les lois sont votées conformément à la façon dont elles sont présentées par l'Assemblée nationale. D'autres fois, elles sont modifiées. Et quand elles sont modifiées toujours par rapport à une amélioration que ça peut apporter pour les collectivités de notre pays. Un exemple, le projet de loi de finances pour 2018 a été profondément modifié par le Sénat, et avec plus de 1 400 amendements qui ont été présentés, pas beaucoup n'ont été retenus par l'Assemblée. Mais si je dois prendre par exemple le dossier du logement, alors que l'Assemblée nationale avait présenté un dossier très très difficile pour les bailleurs sociaux de tous les départements de France, le Sénat a réussi à atténuer, par le biais d'amendements et le biais de discussions, à atténuer un petit peu l'impact que le gouvernement souhaitait, à savoir la baisse des loyers pour les bailleurs sociaux, la baisse des loyers de nos logements.
Quelles sont les commissions dans lesquelles vous siégez?
Alors, je siège à la commission des lois. C'est la commission la plus compliquée au Sénat, une des plus prestigieuses aussi, puisque c'est elle qui examine les lois fondamentales de notre République. C'est dans cette commission aussi que sont étudiées les lois de réforme territoriale. Et à ce titre-là, en tant que membre de la commission des lois, je suis membre de la mission de contrôle et de suivi de la mise en œuvre des dernières lois de réforme territoriale, et en particulier la loi NOTRe. Donc ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, sur lequel je m'étais engagée pendant ma campagne, et je pense que c'est un travail qui va être important et qui va pouvoir aussi déboucher sur des améliorations de la loi NOTRe qui a été relativement meurtrière pour nos territoires.
Alors, depuis votre entrée au Sénat, quels sont les points qui vous ont paru les plus importants?
Alors, bien sûr, le projet de loi de finances de la sécurité sociale, ce qu'on appelle le PLFSS, on y est tombé dedans dès le mois d'octobre. Ensuite, le projet de loi de finances. Nous avons aussi voté une loi récemment sur la GEMAPI. Vous savez, cette fameuse loi que je connais bien pour l'avoir pratiquée sur mon territoire, cette fameuse loi qui obligeait les communautés de communes à prendre cette compétence au 1er janvier 2018 a été légèrement modifiée pour pouvoir avoir un temps d'adaptation pour les collectivités. Il y a eu aussi d'autres propositions de loi sur le redressement de la justice. D'autres multiples lois, mais les plus importantes, ça a quand même été le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Alors, vous, à Paris,
nous ont beaucoup occupés.
À Paris, vous avez toujours un œil, bien sûr, sur les Hautes-Pyrénées et sur les dossiers qui vous paraissent les plus importants. Quels sont-ils à vos yeux?
Alors, bien sûr, il y a eu les dossiers aujourd'hui liés au PLF, comme je vous disais, le logement. Il y a eu aussi les dossiers liés aux problématiques de financement des agences de l'eau, les dossiers liés à l'énergie, avec une question que j'ai posée dans le courant du mois de novembre sur le renouvellement des concessions hydroélectriques. Il y a prochainement les lois importantes qui vont concerner nos collectivités sur l'eau et l'assainissement, cette fameuse compétence qui devrait être assouplie aussi pour atténuer le choc auprès des communautés de communes. Il y a bien sûr la réforme institutionnelle qui va bien entendu modifier le nombre de parlementaires. Voilà, tout ça, c'est des dossiers importants qui m'occupent. Et puis, je reste malgré tout sur le terrain de notre département, puisque j'y reste quand même, j'y reviens 4 jours par semaine, du vendredi au lundi, le reste étant sur Paris. Je reste sur le terrain, je reste aussi une élue locale, puisque vous savez, je n'ai pas abandonné, même si j'ai dû abandonner mes exécutifs, je n'ai pas abandonné les collectivités dans lesquelles je siégeais, même si j'y siège au titre de simple délégué, je n'ai pas abandonné le PLVG auprès de Bruno Vignoles, où je continue à m'occuper de la GEMAPI et des travaux GEMAPI. Je reste sur le terrain mobilisé auprès de tous les acteurs, que ce soit du monde économique, du monde associatif. J'ai fait le calcul, sur 4 mois, j'ai été présente 77 fois sur le terrain, au gré d'inaugurations, de fêtes, de célébrations, de vœux. Voilà, c'est important d'être sur le terrain pour prendre le pouls du territoire.
Lors des vœux au centre hospitalier de Tarbes, le directeur a relancé donc le projet de l'hôpital commun. Quelle est votre position à ce sujet?
Ma position, c'est qu'il faut qu'on fasse un hôpital commun aujourd'hui. On n'a pas le choix. Il faut qu'on arrive à faire un hôpital commun. Et je suis ravie que le directeur ait fait cette annonce. Je dois d'ailleurs le rencontrer prochainement avec mes collègues parlementaires, puisque sur ce dossier-là, il faut afficher un front commun. Jeanine Dubié, bien sûr, est en pointe sur ce dossier depuis de nombreuses années. Et je pense que tous ensemble, on va arriver à afficher un front uni pour reconstruire un hôpital moderne, un hôpital véritablement public et attractif pour notre territoire. Et c'est indispensable aux Hautes-Pyrénées.
La problématique des écoles rurales inquiète les enseignants et ainsi que les parents d'élèves. Il y avait un protocole signé avec le Conseil général et l'Académie. Où en est-on aujourd'hui maintenant?
Alors aujourd'hui, ce protocole a duré 3 ans. Pendant ces 3 ans, le protocole prévoyait un gel des postes sur l'ensemble du département. Effectivement, ça a été respecté, sauf qu'aujourd'hui, ce protocole arrivait en fin de d'application. Il a fallu retravailler sur un autre protocole où il n'a pas été possible d'exiger et de faire valoir auprès de l'Académie le gel de ces postes, des postes sur notre département. On a vécu une forte baisse d'effectifs ces dernières années et nous avons négocié malgré tout la possibilité de geler les postes lorsqu'il y avait un travail de réorganisation territoriale au niveau des écoles. Alors je sais que c'est un souci prégnant sur notre département parce que on est attaché à nos écoles, les maires sont attachés à nos écoles, notamment rurales, et moi je serai attentive, c'est pas parce qu'on a signé ce protocole que l'on donne un blanc-seing à l'inspecteur d'académie pour faire ce qu'il veut, moi je resterai attentive lorsqu'il proposera des suppression de postes, je resterai attentive et lorsqu'elles ne seront pas justifiées ou pas voulues sur le territoire, je m'y opposerai.
Comment vous vous organisez sur le plan local? Vous avez une permanence vous...
Tout à fait. Alors j'ai souhaité ouvrir une permanence à Tarbes qui est en face du conseil général. Je ne coupe pas tout à fait le cordon et pas loin de la préfecture, vraiment sur le cours du Prado, aux trois passages Bruzeau-Gris où j'ai mes deux collaborateurs installés. Donc Thierry Ballarin qui est sur plutôt le travail législatif et l'importance du travail législatif avec le retour sur le territoire. Et puis Julien Béguet qui est aussi sur tout ce qui est gestion de mon quotidienne, de l'agenda, des interventions auprès de la population. Et cette permanence est ouverte tous les jours, du lundi au vendredi, avec ces deux garçons pour accueillir les rendez-vous. Et moi j'y suis bien sûr le lundi et le vendredi sur ma permanence pour recevoir aussi les rendez-vous.